Voici une question dont la réponse est un puissant encouragement pour plusieurs. Où pouvons-nous trouver la paix dans ce monde rempli de querelles? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, si vous trouvez que ça va mal dans le monde aujourd'hui, je vous encourage à écouter l'enseignement qu'on va recevoir de la parole de Dieu au cours de cette émission. Je pense qu'on va tous apprendre comment vivre en paix dans ce monde tumultueux, alors que le livre d'Ésaïe va répondre aux questions que voici. Est-ce que les prophéties de Dieu s'accomplissent toutes? Qu'est-ce que les prophéties démontrent au sujet de Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu se réjouit de sa religion? Pourquoi est-ce qu'Israël ne peut pas jouir de la paix aujourd'hui? Qu'est-ce qui protège le peuple de Dieu mieux que les armes? Quels sont les différents noms que la Bible donne à Jésus? Qu'est-ce que ces noms prouvent au sujet de Jésus? Où pouvons-nous trouver la paix dans ce monde rempli de querelles? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est merveilleux de pouvoir entrer dans ta présence, n'importe quand. Tu es toujours à l'écoute. Tu es un Dieu plein d'amour qui entend nos requêtes. Et aujourd'hui, ce qu'on veut te demander, c'est que tu touches nos cœurs par ta parole, qu'elle fasse une différence dans notre vie, pour ta gloire, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons étudié le chapitre 8 du livre d'Ésaïe. Nous avons vu que les noms des fils du prophète étaient porteurs de messages. Shear Jashub signifie « un reste reviendra ». Emer Shalal, Shashbaz, signifie « vite au butin, fonce au pillage ». Nous avons vu que Dieu parle à son peuple et qu'il ne l'oublie jamais. Il s'occupera lui-même des ennemis de son peuple. C'est par sa grâce souveraine que Dieu sauve son peuple. Celui-ci n'a pas à craindre ce que craignent les autres peuples, mais il a simplement à se confier en son Dieu. Dieu parle à son peuple par le murmure doux et léger du ruisseau de Siloé qui coule entre le mont Morija et le mont Sion. C'est sur le mont Morija qu'a été construit le temple de Salomon, et c'est au pied de cette formation rocheuse que se trouve Golgotha, le lieu où le Seigneur Jésus a été crucifié. C'est sur le mont Morija que Dieu s'est pourvu d'un agneau pour les péchés de l'humanité, tout comme il a pourvu un bouc pour Abraham qui était disposé à sacrifier son fils. L'agneau dont s'est pourvu Dieu est son propre fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu a annoncé que les nations qui s'avancent contre Juda iraient elles-mêmes en captivité en Assyrie. Les eaux débordantes de l'Euphrate qui ont envahi la Syrie, Samarie et même le territoire de Juda parlent des jugements de Dieu. L'armée assyrienne pénétrera en Juda, mais elle ne prendra pas Jérusalem. Jésus-Christ est une pierre d'achoppement sur laquelle nous pouvons trébucher ou nous appuyer. Ceux qui rejettent le Seigneur Jésus y trébuchent. Ceux qui l'acceptent comme sauveur personnel voient dans cette pierre un fondement solide. De plus, nous avons vu dans ce chapitre un avertissement de Dieu contre le spiritisme et les sciences occultes. Dieu ne veut pas que nous touchions à cela. C'est lui qu'il désire que nous consultions. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 9 du livre d'Ésaïe. Les chrétiens connaissent bien ce chapitre à cause de la prophétie qu'il contient au sujet de l'enfant qui viendra. Cet enfant étant Jésus-Christ lui-même. Les chapitres 7 à 12 contiennent des prophéties faites sous le règne d'Akaz. Il a été le seul méchant roi à avoir régné pendant qu'Ésaïe exerçait son ministère prophétique. Ésaïe a été appelé à ce ministère l'année de la mort d'Ozias, qui a été un bon roi, dont le règne dura 52 ans. Jotham, le fils d'Ozias, lui succéda, et il a aussi été un bon roi. À sa mort, Achaz est monté sur le trône, et il a été un mauvais roi qui pratiquait l'idolâtrie. C'est pendant son règne qu'Ésaïe a fait toutes ses prophéties au sujet du Messie. C'était une page sombre de l'histoire d'Israël. Les versets situés du chapitre 8, verset 23, chapitre 9, verset 6, nous voyons que l'espoir d'Israël réside dans un enfant divin, et ce pour ses deux venues. Lisons Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Les prophéties du Dieu souverain s'accomplissent. La traduction de ce verset n'est pas bien établie. En fait, nous avons deux sens opposés l'un à l'autre, proposés par une partie de ce verset. Certains théologiens, dont J. Vernon McGee, pensent que Dieu a permis ce problème de deux traductions possibles parce qu'il avait un but en tête. La nouvelle édition de Genèse dit dans la deuxième partie du verset 23 « Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » La Bible Darby a traduit le même verset par « Et plus tard s'appesantit sur elle, chemin de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des nations. » Les différentes traductions emploient une de ces deux pensées. Couvriront de gloire ou s'appesantit sur elle. Il est difficile de comprendre comment les érudits peuvent appuyer deux traductions si différentes l'une de l'autre, mais je crois que le texte original est énigmatique pour une raison. La traduction de Darby, qui emploie l'expression s'appesantit sur elle, réfère à un accomplissement rapproché de la prophétie. Dieu a déjà affligé Zabulon et Nephtali, les deux tribus du nord, par la main des Syriens, et les deux tribus seront affligées encore plus sévèrement lorsque les Assyriens amèneront le royaume du nord en captivité. C'est ce que nous lisons dans Deux Rois, chapitre 15, verset 29. Par contre, l'autre traduction possible, « couvriront de gloire », pourrait s'appliquer à la venue de Jésus-Christ, il y a environ 2000 ans. La Galilée, du temps de Jésus-Christ, se trouvait sur une partie des anciens territoires de Zabulon et Nephtali. Jésus-Christ a couvert de gloire cette région en y habitant et en y prêchant. Les Juifs méprisaient la Galilée, car beaucoup de gens provenaient de d'autres peuples et y étaient installés. Le Seigneur Jésus n'a pas choisi de s'installer à Jérusalem, le centre religieux snob de son époque. Il n'est pas né et il n'a pas été élevé dans cette ville. Il est né à Bethléem et il a été élevé à Nazareth. Lorsque Nazareth l'a rejeté, il s'est installé à Capernaum, qui se trouvait sur la rive nord de la mer de Galilée. Nazareth se trouvait sur l'ancien territoire de Zabulon et Capernaum. Là où Jésus avait installé son quartier général se trouvait sur l'ancien territoire de Nephtali. Le pied-à-terre de Jésus s'est toujours trouvé à Capernaum. Et c'est pour cette raison que Jésus a prononcé une malédiction sévère sur cette ville. Elle a reçu plus de lumière que toute autre ville. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 16, nous lisons. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Notez que Matthieu n'a pas cité la partie que nous avons de la difficulté à traduire. S'il l'avait fait, nous aurions la pensée du Saint-Esprit au sujet de ce texte. Je pense que le Saint-Esprit a voulu que les deux sens soient possibles. L'accomplissement de la prophétie de ce verset démontre la souveraineté de Dieu sur les événements qui se produisent dans l'histoire de l'humanité. Chers amis, Débutons la lecture d'Ésaïe 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Qu'importe l'interprétation que nous faisons du verset précédent, nous observons que la Galilée, méprisée, était dans les ténèbres du paganisme et de la tradition religieuse. C'est dans ce territoire que l'Ancien Testament et le paganisme de l'extérieur se côtoyaient lorsque le Seigneur Jésus a débuté son ministère dans cette région. La population a vu une grande lumière. Elle a vu le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. La prophétie d'Ésaïe s'est accomplie à la première venue de Jésus-Christ. À quelle période est-ce que le verset suivant réfère? De nombreux commentateurs affirment qu'il y a un intervalle de temps entre le premier verset et le deuxième, et que le deuxième s'applique à la deuxième venue de Jésus-Christ. Verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Le peuple de Dieu se réjouit en son Dieu, non en une religion. Le peuple, qui connaît vraiment son Dieu, éprouve de la joie. Le peuple se réjouissait dans son Dieu et non dans sa religion. Il savait que Dieu lui accordait ses moissons. L'intervalle entre le premier et le deuxième verset atteint déjà environ 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'Ésaïe n'a rien prophétisé au sujet de cette période? Pendant cet intervalle, Dieu appelle son Église dont Ésaïe ne savait rien. L'apôtre Paul a dit, « À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, est porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Citation de Romains chapitre 16, les versets 25 et 26. L'apôtre Paul explique que les prophètes n'ont pas parlé de ce qu'ils ne voyaient pas, et c'est ce qu'Ésaïe fait ici dans ses versets. Dans Ésaïe chapitre 63, nous verrons qu'entre deux mots, il y a une période de temps qui atteint déjà 2000 ans. Les gens au temps d'Ésaïe n'avaient pas de révélation au sujet de l'Église, mais aujourd'hui nous pouvons remplir l'intervalle avec l'histoire de l'Église. Le reste de ce chapitre s'applique à la nation d'Israël et la nation dont le peuple a été rendu nombreux et la nation sur laquelle Achaz régnait. Notez que l'apôtre Paul a dit « et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi ». Le prophète Ésaïe parlait à sa nation alors que la révélation au sujet de l'Église était destinée à un autre auditoire. Verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. La puissance de l'oppresseur sera anéantie au retour de Jésus. Quand est-ce que ce joug sera ôté et le bâton brisé? Cela se fera lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Pourquoi est-ce qu'Israël ne peut pas jouir de la paix aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'Israël est menacé sur toutes ses frontières avec les autres pays? La nation est dans cette situation parce qu'elle a rejeté la seule personne qui peut apporter la paix, son propre Messie, le Seigneur Jésus-Christ. La puissance de l'oppresseur ne sera pas anéantie tant que le Seigneur Jésus ne reviendra pas une deuxième fois. Verset 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Dieu protège son peuple mieux que les armes. Lorsque Dieu délivre son peuple, les chaussures des adversaires et les vêtements des guerriers ennemis peuvent être livrés aux flammes. Le peuple de Dieu aussi n'a plus besoin de son équipement militaire puisqu'il n'est plus opprimé. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra établir son royaume, il n'y aura plus besoin d'armement. Tous les arsenaux seront vidés et les armes détruites. Poursuivons notre lecture du prophète Ésaïe en lisant chapitre 9, les versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Chers amis, les noms de Jésus prouvent qu'il est Dieu. Notez les noms qui sont donnés au Seigneur Jésus. Admirable. Ceci n'est pas un adjectif, mais c'est le nom de Dieu. Dans le livre des Juges, au chapitre 13, nous lisons, « L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Juges chapitre 13, verset 18, « L'ange de l'Éternel est une christophanie, c'est-à-dire une manifestation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il s'adresse à Manoah, le père de Samson, qui lui a demandé son nom. Le mot traduit « merveilleux » est le mot hébreu « pili », qui signifie « merveilleux », »,« incompréhensible », »,« extraordinaire ». Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 27, le Seigneur Jésus a dit « Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père ». Les gens ne s'en rendaient pas compte, mais Jésus-Christ était merveilleux. Les gens ne le perçoivent toujours pas aujourd'hui. De nombreux chrétiens l'ont reçu comme sauveur personnel, mais ils ne se rendent pas compte à quel point il est merveilleux. Lorsqu'il reviendra, il mettra fin à toute rébellion contre lui et contre le Père céleste. Il règnera sur sa création. On l'appellera conseiller. Le Seigneur Jésus n'a jamais demandé conseil à un être humain. Il n'en avait absolument pas besoin, car il est le Créateur. Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Romains chapitre 11, verset 34. Lorsque le Dieu trinitaire, infiniment sage et omniscient, a formé son plan avant la fondation du monde, il n'y avait pas d'homme pour le conseiller. L'homme détient le peu de sagesse qu'il a de Dieu. Celui-ci n'a donc pas besoin de conseil des êtres humains. Le Seigneur Jésus n'a jamais réuni ses disciples en conseil pour chercher la solution à un problème ou pour planifier son calendrier et les tâches à accomplir. Jésus leur déclarait ce qu'il ferait, car il avait obtenu ses instructions du Père céleste et il accomplissait toujours la volonté de Dieu. En fait, le Seigneur Jésus est notre sagesse. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Les êtres humains ont une connaissance et une sagesse limitées. Nous devons aller à Jésus-Christ pour de l'aide. Il sera appelé Dieu puissant. L'expression hébraïque est El Gibor. Il est celui à qui tout pouvoir a été donné. Il est le Dieu tout-puissant. Imaginez le petit bébé qui vient de naître dans les bras de Marie. Il a créé l'univers et il le soutient. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Citation de Colossiens, chapitre 1, verset 16. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Faut-il s'étonner qu'il soit aussi appelé merveilleux? Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, verset 18. Il sera appelé aussi Père éternel. Jésus est le Créateur de toutes choses, dont le temps et il est la cause première de toutes choses qui servent à accomplir le plan éternel et les buts du Dieu trinitaire. L'évangéliste Jean a dit, « Toutes choses ont été faites par elle, la parole qui est Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean chapitre 1, verset 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hébreux chapitre 1, verset 2. Le mot hébreu « aion » peut se traduire « univers »,« monde », mais il peut se traduire aussi par « âge » et par « période de temps ». Le Père éternel est le Créateur des âges ou du temps. Prince de la paix. Il n'y a jamais eu de véritable paix dans le monde. Oui, des peuples peuvent faire des trêves et cesser de se battre, mais la paix n'est jamais faite dans le cœur de l'homme qui est corrompu. Les nations se battent entre elles. Les groupes ethniques se querellent entre eux. Les gens sont divisés en classes sociales, en riches et en pauvres. Les frères se querellent, les voisins se querellent. Il n'y aura jamais de paix sur la terre, car le problème vient du cœur de l'homme qui est pécheur. Jésus-Christ est le seul qui procure la paix. Le plus important, c'est qu'il nous procure la paix avec Dieu. Parce que le Fils a donné sa vie en rançon pour nous. Dieu cesse d'être notre ennemi, et il nous manifeste sa bienveillance. Jésus a déjà commencé à mettre la paix sur terre en remplaçant le cœur de pierre des siens par un cœur de chair, en faisant naître spirituellement ceux qui viennent à lui. Il unit les membres de son Église. Par exemple, il a fait tomber le mur de partition qui séparait les Juifs et les païens. Ces groupes se haïssaient mutuellement, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Cependant, c'est lorsqu'il reviendra qu'il établira une paix entre tous les hommes. Jésus-Christ règnera sur un véritable trône, et la justice caractérisera son règne. C'est Dieu qui accomplira cela, et non une stratégie ou un plan humain est inefficace. Le reste du chapitre traite de la situation en Juda et la prophétie s'accomplira dans un avenir assez rapproché du jour où elle a été prononcée par le prophète. La prophétie pointe cependant vers la grande tribulation. Dieu continuera à punir cette nation et toutes les nations qui auront refusé l'autorité de son Fils jusqu'à son retour. L'homme contemporain n'aime pas entendre cela. Il préférerait un message flatteur et encourageant. Consultez vos livres d'histoire et notez ce qui est arrivé à Israël et aux nations qui ont rejeté Dieu. Leur fin est triste, et je crains que nous vivions dans un pays qui s'attire le jugement de Dieu. Selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, verset 14, l'enfant né d'une vierge devait être appelé Emmanuel. Ce nom signifie « Dieu avec nous ». Le Seigneur Jésus n'a pas été appelé de ce nom, mais le nom Emmanuel le décrivait parfaitement. Nous le voyons ici par ces autres noms de Jésus. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, s'est fait chair afin de nous sauver. N'hésitez pas à venir à lui et de le recevoir comme sauveur personnel. Le Dieu puissant a quitté sa gloire céleste pour prendre une nature humaine. Cela démontre son amour et sa détermination à vous sauver. Ne croyez pas le diable qui vous fait croire que vous êtes un trop grand pécheur pour être sauvé. Le Fils vous a ouvert le chemin au trône de la grâce. Demandez-lui pardon pour vos péchés et invitez-le à régner dans votre cœur. Vous pouvez le faire maintenant. Il est à votre écoute. Vous n'avez que le lui demander. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant et en méditant le prophète Ésaïe, le chapitre 10, je vous souhaite à tous bonne lecture.
Merci Régent. J'ai bien aimé tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui concernant les divers noms que le livre d'Ésaïe nous donne pour le Seigneur Jésus. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et enfin, Prince de la paix. Mes amis, vous qui croyez au Seigneur Jésus, vous trouvez pas ça encourageant de savoir qu'il est le Prince de la paix alors qu'on vit dans ce monde où il n'y a jamais eu de véritable paix. Régent a mentionné que la paix n'est jamais faite dans le cœur corrompu de l'homme. Il a ajouté que les nations se battent entre elles, que les groupes ethniques se querellent, que les gens sont divisés en classes sociales, en riches, en pauvres, que les frères se querellent, que les voisins se querellent. Et tu as dit aussi qu'il n'y aura jamais de paix sur la terre, parce que le problème vient du cœur de l'homme qui est pécheur. Mais enfin, tu as terminé en disant que Jésus-Christ est le seul qui procure la paix. Ouf, heureusement. Mes amis, chaque jour je remercie Dieu d'avoir donné son Fils unique et je remercie Jésus d'avoir donné sa vie afin de me procurer cette paix en mourant sur la croix pour le pardon de mes péchés. Maintenant, j'ai premièrement la paix avec Dieu et en plus, j'ai la paix avec tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Et en étudiant la parole de Dieu, j'apprends que Jésus reviendra un jour pour établir la paix entre tous les hommes. C'est ce que Régent nous a mentionné plus tôt. C'est pourquoi j'utilise souvent un mot que Régent a mentionné plusieurs fois aujourd'hui. Et ce mot, c'est « merveilleux ». Oui, Jésus est merveilleux. Régent a dit que les gens ne perçoivent pas que ce Jésus est merveilleux, que de nombreux chrétiens ont reçu Jésus comme sauveur personnel, mais ne se rendent pas compte à quel point il est merveilleux. Je trouve ça bien triste. Mes frères, mes sœurs, je pense qu'on a tous besoin de plonger nos yeux et notre cœur dans la parole de Dieu. C'est là qu'on découvre à quel point il est merveilleux. Et c'est aussi dans notre quotidien qu'on peut le voir agir d'une façon merveilleuse. J'aime réfléchir sur les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je me rends compte que même avant de connaître Dieu, il m'a protégé, il m'a préparé à le servir. Il avait un plan pour moi, un plan merveilleux. Un plan qui s'accomplit à chaque jour de ma vie et qui va continuer éternellement puisque je suis devenu son enfant il y a déjà plusieurs années. Le jour où je me suis repenti, où j'ai changé de direction à l'égard du péché, le jour où j'ai placé ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés, le jour où j'ai dit « Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle ». Mon ami, ce Jésus merveilleux s'adresse à toi aussi. Si tu n'as pas encore placé ta confiance en Jésus, fais-le. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Il dit pas « Tu vas peut-être être sauvé, tu vas l'être certainement ». Tourne tes regards vers Jésus, mon ami. Demande pardon à Dieu pour tes péchés et reçois Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Il veut tout pardonner.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.